Comment expliquer que des jeunes animaux, au fil des générations, répètent les mêmes comportements sans jamais avoir reçu d'initiation de la part de leurs parents? Pourquoi un beau jour, un bébé manchot décide de parcourir seul des kilomètres vers l'océan pour trouver de quoi se nourrir? Comment les araignées sont capables de tisser leur toile comme les autres membres de leur espèce sans aucun apprentissage? Mais que dire également du petit humain qui cherche dès sa naissance le sein de sa mère pour téter? L'instinct, c'est un phénomène fascinant qui intrigue toujours d'ailleurs les scientifiques en quête d'explications. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré avec mon invité, le biologiste Gilles Boeuf, qui a de très nombreuses histoires insensées à nous raconter à ce sujet. Il est mon invité donc dans un instant. Il répondra à vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, le plus grand herbier du monde est désormais accessible en ligne et il est français.
Oui, un exploit inégalé à ce jour avec la mise à disposition et la caractérisation de plus de 6 millions de planches de l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle, un outil précieux pour les chercheurs que nous explorons avec un de ceux qui ont trié toutes les images, Gwenaël Lebraz.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Dylan Beiner avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'instinct animal, ce sera donc dans quelques minutes le dossier de l'émission et je salue mon invité, le biologiste marin Gilles Boeuf.
Bonjour. Bonjour.
Gilles Boeuf, est-ce que l'homme possède autant d'instinct qu'un saumon qui revient toujours sur les lieux où il est né?
Oui, c'est pas aussi évident a priori, mais oui, bien sûr, hein, l'instinct touche à toutes les espèces animales.
Et l'homme a peut-être oublié les siens par rapport aux autres animaux?
Il les a pas oubliés, ils sont masqués par des comportements qui sont appris, parce que il dure très longtemps l'apprentissage chez l'enfant. Hein. Mmh. Il rappelle que chez un chimpanzé, le cerveau est totalement développé à 2 ans. Chez l'humain, c'est bien plus long que ça, en fait. Mmh. Donc, ça masque certains aspects. Mais heureusement qu'il nous reste de l'instinct. On verra pourquoi tout à l'heure.
Et on va se retrouver donc dans un instant pour évoquer et puis les explications possibles proposées par les scientifiques. Et vous répondrez donc au message des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Voilà, Gilles Boeuf, hasard de l'actualité, un sujet que vous connaissez bien, le plus grand herbier numérique du monde, hein, le seul. Il est français, il contient plus de 6 millions d'entrées, à l'époque où vous étiez justement président du muséum, avec les équipes justement du MNHN qui publient dans la revue Scientific Data le résultat d'un travail colossal, plusieurs dizaines d'années de restauration et numérisation, un patrimoine botanique donc et un outil de travail pour les chercheurs du monde entier. On en parle donc avec vous, Gwenaël Lebraz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gestionnaire de base de données pour le muséum, premier auteur de ses travaux et dans ce studio, comme tous les lundis avec nous, Hervé Kemp. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Partenaire du magazine Reporter.net, le quotidien de l'écologie. Hervé, 300 ans de récolte, 6 millions de spécimens. Donc ça, c'est un bon outil pour faire de l'écologie, hein?
Et oui, tout à fait, parce que pour bien protéger la biodiversité, eh bien, il faut la connaître. Alors, il y a 3 grands moyens de connaître l'aventure des plantes. L'idéal, c'est la banque de graines vivantes, mais on ne peut pas toujours le faire parce que les graines meurent. Certaines d'entre elles, en tout cas, plus futuristes, il y a la banque de gènes qui existe. Et puis, il y a sans doute le plus important, la méthode que nous avons peut-être appris par notre institutrice, instituteur ou le grand-père dans le temps, c'est aller dans les champs, ramasser des fleurs, des feuilles et les mettre entre 2 feuilles de papier. Ça s'appelle un herbier et c'est une méthode tout à fait scientifique, tout à fait moderne, qui a été initiée par les naturalistes au XVIe, XVIIe siècle et puis qui a conduit à la constitution de ces grands herbiers. Alors celui du muséum dont on va beaucoup parler. Aussi, il y a d'autres herbiers en France, notamment dans les grandes universités, à Lyon, à Clermont-Ferrand, qui font du très bon boulot. À quoi ça sert? Eh bien, par exemple, avoir l'histoire des plantes va nous permettre de savoir comment ça évolue par rapport au climat. Par exemple, en Auvergne, on s'est rendu compte que certaines plantes qui étaient au bas des puits, au bas des montagnes, maintenant ne se trouvent plus qu'en haut, et c'est un signe du changement climatique.
Alors Gwenaël Lebraz, revenons au tout début. Pourquoi depuis des centaines d'années, les botanistes s'amusent à coller des plantes sur des feuilles de papier? Quel est le but au début?
Au début, ça permet de garder une trace d'un spécimen nettement mieux qu'un dessin. On a l'avantage des plantes par rapport aux animaux, c'est que ça se conserve très bien sec. Et donc faire un herbier, les dessécher, nous permet de conserver une trace et de pouvoir revenir sur le matériel autant de fois qu'on en a besoin.
Alors là, 6 millions de planches, ça prend quoi comme place?
Un bâtiment, un grand bâtiment, et encore, il n'est pas assez grand, donc on a dû installer des armoires sur roulettes pour les tasser.
Donc maintenant, c'est 6 millions de photos, mais à chaque photo, il faut associer des informations. Quelles sont les informations utiles pour faire de la recherche quand on fait de la numérisation de banques comme celle-là?
Alors, pour, de toute façon, pour étudier un herbier ou tout autre spécimen d'histoire naturelle, il faut avant tout qu'on ait les informations sur le lieu de récolte et la date de récolte. C'est les informations de base, c'est ce que nous amène l'herbier, en fait, c'est de pouvoir retrouver que, tiens, en plein milieu du 19e siècle, telle plante a été récoltée à tel endroit, et aujourd'hui, elle est plus présente, par exemple.
Les herbiers, physiquement, aujourd'hui, sont encore utilisés par les chercheurs? Ils vont dans les collections regarder les planches?
Oui, la base de données ne remplace en aucun cas les herbiers physiques. Elle permet de la base de données permet de répertorier les collections, qui c'est le meilleur outil pour savoir où les retrouver dans la collection. Mais le matériel de base pour les chercheurs, ça reste l'herbier physique.
Alors là, vous avez fait cette numérisation, vous avez toutes les données qui sont accessibles pour la recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça sous forme numérique?
Alors, on peut croiser plein d'informations qui sont difficilement accessibles autrement. La première fonctionnalité de la base de données, c'est de répertorier justement les spécimens qu'on a en collection, et ce travail nous a permis de retrouver des spécimens qui étaient tombés dans l'oubli, on va dire. La base de données nous permet d'envisager un certain nombre de recherches sur la morphologie des plantes et puis sur l'historique aussi des populations de plantes.
Ouais, Gwenaëlle Lebras, comment vous avez procédé pour numériser 6 millions de pages donc de données de ces plantes? Et d'images donc, hein.
Quand on dit 6 millions, c'est pas que l'article en question ne parlait que de l'herbier des plantes vasculaires. L'herbier du Muséum de Paris possède 8 millions de spécimens. Ouais. Mais on les a pas tous numérisés, parce que c'était pas toutes numérisables. On a commencé par voir petit, hein, ça a commencé dans le milieu des années 90. D'abord avec des appareils photo, avec la technologie accessible à l'époque, puis avec des scanners haute définition à partir de la première décennie du 21e siècle. Et ce retour d'expérience nous a permis de lancer un projet de grande ampleur avec des scanners automatisés donc c'était de la numérisation industrielle, quoi.
Donc il y avait une reconnaissance de la part de machines, en fait, qui faisaient le boulot à la place des humains.
Il y avait quand même des personnes qui étaient chargées de manipuler les machines. Les machines ne travaillaient pas toutes seules.
Ouais.
Mais le gros du travail était robotisé pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. On fait pas 6 millions de scanners en un claquement de doigts.
On imagine, ouais. Hervé.
Je crois que dans le gigantesque herbier du muséum, il y a en fait beaucoup de plantes exotiques d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et relativement peu de France. Est-ce que c'est exact? Et est-ce qu'il y a encore des découvertes à faire, notamment en France, par exemple?
Oui, il y a encore des découvertes à faire. On est sans doute l'un des herbiers historiques de France. On est un des premiers herbiers à avoir été créé en France. Donc on a, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de spécimens qui ont été récoltés en France, hein, c'est quasiment 1 million sur les plantes vasculaires, je parle que des plantes vasculaires. Donc ça fait 1/6 de la collection à peu près, c'est des spécimens de France.
Et les autres sont donc d'autres pays, en fait, lointains.
Mais on a l'ensemble de la planète représentée. On a des plantes d'Antarctique. Enfin, on en a de partout, quoi.
Est-ce que l'herbier continue de s'enrichir? Est-ce que des planches nouvelles sont créées?
Oui, tous les ans, des chercheurs, des botanistes vont sur le terrain et ramènent des spécimens qui viennent enrichir les collections. Et des chercheurs d'autres instituts avec lesquels les botanistes du muséum travaillent continuent de nous envoyer des spécimens. Oui.
Gilles Boeuf, ce travail, il est indispensable justement pour la conservation aussi de la biodiversité?
Tout à fait, et surtout dynamique et historique. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, le fait de savoir que telle plante était à tel endroit à telle époque, c'est super intéressant. Soit elle n'est plus là aujourd'hui, soit elle prolifère. Hein, on a des problèmes d'espèces qui sont envahissantes. Mm-hmm. La fougère règle en ce moment en Écosse, par exemple. Alors, je dirais que sur les acquisitions nouvelles, les grandes expéditions de la planète revisitée nous amènent effectivement des plantes nouvelles en permanence. On fait en fait tous les ans maintenant une visite dans un grand pays exotique perdu où on n'est pas trop allé. La Papouasie, par exemple, le sud de Madagascar, récemment des parties difficiles de la Nouvelle-Calédonie. Donc on ramène effectivement des plantes nouvelles. On continue à investiguer en France. Là, une remarque qui est intéressante, c'est qu'on est beaucoup aidé par les amateurs. Hein, il y a un groupe qui s'appelle Tela Botanica en France, qui est vraiment excellent et qui est le meilleur système aujourd'hui de mise en évidence de ce qu'est la cartographie des plantes en France. Et enfin, autre aspect intéressant, c'est que ça nous aide pour comprendre les problèmes de synonymes dans ces herbiers, malheureusement.
Qu'est-ce que vous appelez les synonymes des plantes?
La même plante a été décrite à des époques différentes sous des noms différents. Ça, c'est très difficile pour qu'on s'y retrouve. Et c'est pas du tout négligeable pour les plantes vasculaires dont on parle à l'instant.
Hervé Kempf, vous voulez réagir?
Gilles Boeuf, vous avez commencé à l'évoquer, mais il y a un aspect de science participative dans cet herbier. Comment est-ce que les gens, vous, moi, enfin, ou ceux qui nous écoutent plus exactement, peuvent participer à cet herbier?
On va poser la question à Gwenaëlle Lebras.
Oui, il y a un site qui a été créé en parallèle de la numérisation de masse pour nous permettre de rajouter des informations. En fait, il faut imaginer qu'on a introduit dans la base de données des images avec relativement peu d'informations. Mais évidemment, pour retrouver les spécimens, on a besoin d'informations complémentaires. Et on sollicite le grand public à travers le site qui s'appelle Les Herbonautes, ce qui est trouvable sur Internet assez facilement. Et qui nous permet d'enrichir en métadonnées nos collections.
Concrètement, ça veut dire que je dois aller déchiffrer l'écriture manuscrite des chercheurs d'il y a 100 et 200 ans ?
Exactement.
Ok, c'est pas facile alors.
C'est exactement le principe. Mais c'est un travail qui est collectif. Les personnes qui interviennent sur les herbonautes discutent entre elles. On les pousse à le faire. Et les gens qui ont un peu plus d'expérience sur le site aident souvent les nouveaux débutants. Puis ça vient assez vite, en fait. Hein, c'est des écritures principalement du 19e siècle et début 20e siècle.
De la belle science participative, voilà, pour maintenir le plus grand herbier du monde à son niveau, Gilles Boeuf.
Tout à fait, c'est extrêmement important. Avec les plantes sont évidemment un modèle tout à fait idéal. Ouais. En gros, en France, on connaît 7000 espèces de plantes aujourd'hui, dont 1000 simplement dans Paris. C'est pas négligeable.
Ah, c'est pas mal. Donc, une belle biodiversité.
Tout à fait, elle revient.
Ouais. Lesherbonautes.mnhn.fr, hein, Axel.
C'est exactement ça, merci.
Sur le site de la tête opérée. Merci beaucoup. Et puis Hervé, on retrouve toutes les infos sur reporter.net également.
Avec passion.
Merci beaucoup, Gwenaëlle Lebras.
Merci.
Bonne journée à vous. Au revoir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, justement, on fait de la localisation de plantes, mais également pour les planètes, parce que vous allez pouvoir participer peut-être à la localisation de la 9e planète du système solaire. L'année dernière, des astronomes ont réalisé que les orbites de certains astres étaient inexplicablement altérées. Ils ont alors émis l'hypothèse que cela était dû à une planète encore inconnue. Alors, pour la retrouver justement, l'hypothétique astre, la NASA invite chacun à participer à cette recherche en analysant des images du télescope WISE, issues de plusieurs années d'observation. Les chercheurs ont besoin d'aide là aussi pour recenser les objets en mouvement, objets donc que vous pouvez traquer et signaler sur la plateforme collaborative backyardworlds.org. Les eurodéputés veulent un cadre réglementaire pour les robots. Le Parlement européen a voté la semaine dernière une résolution invitant la Commission européenne à rédiger des normes juridiques et éthiques pour encadrer l'usage des robots. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, la robotique médicale, industrielle et même militaire va prendre une place croissante dans nos sociétés. Dans cette optique, l'UE veut édicter ses normes avant de se voir imposer celles des autres. L'interféromètre Virgo, amélioré mais en panne, alors que le détecteur d'ondes gravitationnelles européen célèbre la fin de 50 travaux de mise en service, et bien Science révèle que justement sa mise en service pourrait, pourtant prévue pour le mois prochain, sera retardée de plusieurs mois. La faute à des problèmes sur des amortisseurs indispensables pour les mesures très précises de l'appareil. Allez, on parle de l'instinct animal dans un instant, c'est le dossier de la tête au carré.
Amen.
Voodoo Game, elle décide à l'instant.
La tête carrée sur France Inter.
Voilà, l'instinct animal, c'est l'objet de notre émission cet après-midi avec vous, Gilles Boeuf. Vous êtes biologiste marin, spécialiste de physiologie environnementale et d'endocrinologie. Vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Vous avez donc été président du Muséum national d'histoire naturelle de 2009 à 2015. Et pour parler de l'instinct, les auditeurs nous rejoignent avec les messages sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Alors, l'instinct animal, évidemment, c'est un sujet, Gilles Boeuf, qui intéresse beaucoup les scientifiques. Mais est-ce que la science a beaucoup de réponses à toutes les questions qu'elle se pose sur ces phénomènes qui parfois sont assez sidérants quand même?
Alors, disons qu'on en a quelques-unes depuis un certain temps, puisqu'il y a eu un prix Nobel quand même extraordinaire qui a été offert à trois grands éthologues. L'éthologie, c'est la science des comportements. Lorenz von Frisch et Nicolas Tinbergen. Et c'est vrai que ça a jeté un petit peu de lumière sur ces aspects, sur ces approches. Et maintenant, avec l'imagerie médicale et cérébrale, on fait des progrès remarquables. Pardon, on demande souvent la différence entre instinct et intuition. C'est intéressant. C'est pas les mêmes zones de cerveau.
Alors,
justement, l'intuition pourrait être considérée comme une forme d'instinct, mais c'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont incriminées. Alors, si je prends la définition du dictionnaire, j'ai regardé juste avant de venir, toujours bien, hein, on connaît un mot plus ou moins, c'est l'ensemble des comportements animaux et humains, caractéristiques d'une espèce, transmis par voie génétique et qui s'exprime en l'absence d'apprentissage. Ouais. Et il rajoute, impulsion innée, automatique et invariable, qui régit le comportement de tous les individus d'une même espèce.
Ouais. On est dans l'inné, vraiment, avec l'instinct?
Oui, puis c'est pour ça que l'humain aussi est concerné. Regardez, par exemple, on parlait des petits manchots empereurs, notre ami Luc Jacquet, cet instinct, effectivement, d'aller trouver l'océan. Des bébés tortues, qui éclosent sur une plage, en Guyane ou ailleurs, vont effectivement rapidement aller vers la mer. Un petit saumon qui va naître en France, dans l'Allier. On est à 1000 kilomètres de l'océan. Ouais. Un jour, on va avoir l'idée étrange de descendre la Loire sur 1000 kilomètres, de trouver l'océan à Saint-Nazaire, et d'aller trouver ses zones d'engraissement en mer au Groenland, et du revenir exactement à l'endroit duquel il est parti. Il n'a jamais appris.
Il va le faire combien de fois au cours de sa vie?
Chez les mâles, une fois. Ouais. Ils sont épuisés, les pauvres. Ouais. Chez les femelles, pour le saumon atlantique. Hein, pour les saumons américains, ils meurent tous après la première reproduction. Chez le saumon atlantique, on a connu le cas d'une femelle qui avait fait 3 migrations. Et ce qui est superbe, c'est qu'à cet instinct qu'on évoquait à l'instant, se rajoute un apprentissage. On voit que la femelle qui part pour la troisième fois va beaucoup plus vite et revient plus vite du Canada.
Donc elle apprend quand même des choses.
Tout
hein,
à fait.
Effectivement. À fait. Donc ça, on a vraiment... Alors, il y a des exemples innombrables, évidemment, dans la nature et chez l'humain.
Marcher, nager.
Absolument. Téter pour le bébé.
Ah oui,
par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure.
Fabuleux, absolument.
L'instinct humain, il est également très présent quand même, et dès le début de notre vie.
Mais complètement. Et justement, Lorenz faisait une jolie remarque parce qu'à un moment, on avait dit, je le cite, on nous dit que ce que nous appelions autrefois inné et ce que nous appelions autrefois acquis ne peuvent se définir que comme le contraire l'un de l'autre. C'est absolument faux. En fait, il y a toujours un mélange. On montre même maintenant que, au cours du temps, ce qu'on apprend va stimuler des fonctions instinctives, en fait.
Ouais.
Mais c'est vrai que, bon, l'instinct de téter chez un mammifère, c'est pas que le cas du bébé, c'est tous les mammifères, en fait. S'il fait pas ça, il meurt, en fait. Hein.
Ouais.
Donc c'est inscrit quelque part, dès le départ, il va avoir cette activité-là. Ça, c'est très, extrêmement important.
Mais c'est stupéfiant, quand même, parce que toutes les mamans, au moment de l'accouchement, ont vu, enfin, pour la plupart d'entre elles, le bébé se diriger quand même vers le sein.
Il y a des questions d'odeur, en particulier. Ouais. Alors là aussi, c'est profondément hormonal, tout ça.
Alors voilà, on a quand même des éléments de réponse.
Bien sûr, bien sûr. Ben, par exemple, chez les saumons, on sait que si jamais on détruit ou on lèse les fonctions de l'olfaction, il partira pas, il retrouvera jamais sa zone initiale. On connaît des hormones qui sont impliquées là-dedans. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que moi qui suis un physiologiste, qui va donc effectivement permettre des comportements ou les faciliter, c'est intéressant parce que il y a un échange entre les deux, en fait, hein. Et dans le cas de la maman, elle se met à avoir du lait, bien sûr, à la fin de la grossesse, quand le bébé va naître, pas n'importe comment auparavant, et elle va pouvoir être capable d'alimenter ce bébé durant le temps, justement, des tétés répétés. Et on sait que ça a été longtemps chez les femmes une méthode de contraception. On allaitait longtemps un enfant pour pas se retrouver trop vite enceinte. Mais appliqué aux civilisations qui sont les nôtres, si on se levait pas la nuit, ça marchait plus.
Ouais.
Et elle pouvait se retrouver enceinte alors qu'elle continuait à alimenter le bébé au sein toute la journée. Donc, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a une réponse subtile entre le comportement, la physiologie, et les changements environnementaux. L'environnement joue un rôle important sur cette question-là aussi.
On va en parler, évidemment. Donc, on peut plus séparer l'inné et l'acquis, comme on l'a fait pendant très longtemps, Gilles Boeuf?
C'est facile scientifiquement, mais à chaque fois, ça marche de façon conjointe. Je prends le cas des abeilles, qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup, qui vivent que 3 semaines pour une ouvrière. Un instinct fantastique, bien sûr, à la naissance, elle va aller trouver les champs pour trouver ce pollen dont elle a si besoin. Et ensuite, par des dents sophistiquées, qu'on va lui leur prix Nobel d'ailleurs à nos amis tout à l'heure, elle va enseigner aux autres animaux de la ruche où se trouve la ressource pollen. Mais ce qu'on montre, c'est que même si elles vivent très peu longtemps, 3 semaines, une vieille abeille de 3 semaines est capable de beaucoup mieux montrer à ses collègues là où se trouve le pollen. Oui, elle
ça,
a appris.
Ça, c'est stupéfiant quand même, oui, effectivement. Cette répétition de génération en génération, oui. On peut presque parler de mémoire alors au fond, non?
Oui, mais c'est une mémoire qui effectivement se transmet de génération en génération, elle est génétique. Par exemple, la question qu'on me pose souvent, pourquoi nos saumons bretons ou les saumons de l'Allier vont-ils au Canada? Et ça, c'est lié bien sûr à des aspects physique, de géologie et de dérive des continents. Ces animaux-là se sont mis à aller en mer parce que en mer, il y a plus d'alimentation qu'en restant en rivière uniquement. Et puis, comme les continents se sont séparés de quelques kilomètres tous les ans, on finit maintenant par faire 15 000 kilomètres.
Ouais, mais alors, ce qui est fou, c'est que ces animaux sont capables donc de s'adapter à un milieu d'eau douce pour ensuite découvrir la salinité.
Ah oui, tout à fait.
Et ça, ils le font sans aucun problème.
Alors, c'est pas sans aucun problème. Alors, justement, moi, j'ai passé 18 ans de ma vie à travailler là-dessus. Ce qui est superbe, c'est de voir un petit saumon qui peut très bien vivre 15 mois en rivière, ou même 2 ans ou 3 ans, ça dépend des endroits, va avoir cette idée bizarre, alors qu'il ne connaît pas le milieu salé, d'acquérir, alors qu'il est toujours en rivière, des capacités de régulation de l'eau salée.
Non mais c'est incroyable.
Ah, bien sûr, et c'est lorsque ceci est prêt que ça déclenche la migration active. Alors bien sûr, un saumon breton qui naît à 50 km de la mer est dans la mer le lendemain, quand il est parti, du centre du Finistère par exemple, ou des Côtes d'Armor, un saumon de l'Allier, il met quand même 10 semaines pour faire ces 1000 km qu'on évoquait tout à l'heure.
Donc, en prévention de son voyage océanique, il va être équipé d'une certaine manière pour pouvoir affronter cette traversée.
Et là, on sait très bien maintenant que des hormones comme celle de la glande thyroïde sont essentielles. Si jamais on lèse la glande thyroïde, ça ne se produit pas. Il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène, effectivement, de préparation à la migration et le phénomène d'adaptation à l'eau salée, qui doivent être conjoints, mais qui ne sont pas réglés par les mêmes systèmes de régulation.
1973, donc effectivement, grand prix Nobel pour l'éthologie, hein, cette discipline donc, qui s'occupe du comportement animal.
Sciences et techniques.
Prix Nobel de médecine et de physiologie. Konrad Lorenz, Karl von Frisch, République fédérale allemande, et Nicolas Tinbergen, Hollande, pour leurs études sur les comportements animaux dans leur milieu naturel.
Si vous vivez avec les oies sauvages pour 3 ou 4 années, jour et nuit, vous parviendrez à comprendre tout ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de syllabes qui se suivent très rapidement et les fréquences hautes prédominent. Alors il y a... Ça veut dire que les oies se trouvent bien, sont en train de manger. S'ils commencent à marcher, les syllabes deviennent moins fréquentes et les fréquences très hautes se perdent. Ça veut dire que ce « kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan » se change en « kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan-kan ».
Voilà Gilles Boeuf, la voix de Konrad Lorenz, à l'occasion de ce prix Nobel. C'est le premier d'ailleurs pour cette discipline, l'éthologie, en 73, alors que les travaux avaient commencé dans les années 30.
Bien sûr, et pour beaucoup en fait, de gens à l'époque, c'était une science secondaire, l'éthologie, alors que c'est absolument fascinant, parce qu'elle est intégrée. En fait, un comportement, il intègre énormément d'informations, d'environnements qui changent pour qu'on puisse s'y adapter, et d'informations en fait, internes qui coordonnent la vie de l'espèce en question. Et c'est vrai qu'au cours de l'évolution, si je pars des bactéries, par exemple, pour aller jusqu'aux arthropodes, les insectes, qui sont très particuliers, on a en fait deux réussites fantastiques, les vertébrés, les insectes, si je prends les animaux simplement, dans la capacité à s'auto-représenter, à avoir conscience d'eux-mêmes. L'instinct est fantastique, parce que le triomphe de l'instinct chez un requin, par exemple, ou chez un insecte, il est là parce qu'on aura un comportement idoine le mieux adapté au cours de l'évolution aux situations qu'on va vivre. C'est aussi le fait d'avoir quelque part en soi-même un bagage moléculaire génétique qui fera que le jour où un événement qu'on n'a jamais vécu survient, on puisse y survivre. Ça, c'est très fort. Alors après, dès le moment où ceci va se sophistiquer, s'élaborer avec des structures cérébrales adaptées, on va parler effectivement des oiseaux, des mammifères, enfin tous les vertébrés, les poissons sont remarquables aussi, c'est que là, on va compliquer le système en étant capable d'avoir un comportement réfléchi sur une situation particulière. Et donc, au triomphe de l'instinct, succède d'abord à Mélange, parce que nous aussi, on continue, par exemple, si on prend l'instinct du bébé, l'instinct maternel d'une maman, par exemple. C'est complètement anormal, une maman qui n'a pas cet instinct vis-à-vis de son enfant. Ça traduit souvent des graves troubles sociaux que la maman a vécu auparavant, quand elle était petite fille, ou durant le moment, justement, où elle s'occupe de ses enfants. C'est le reflet intégré. Donc, c'est très puissant en qualité d'information, de comportement.
Donc, pour perpétuer l'espèce, l'instinct est absolument indispensable. Oui. Au fond, c'est peut-être ça aussi le rôle de l'instinct.
Qu'est-ce que fait une femelle, finalement? Elle va se rapprocher d'un mâle au moment de la reproduction, et le mâle de la femelle. Le mâle, c'est très fugace, il émet ses spermatozoïdes, ça ne dure pas très longtemps. Ouais. Le plaisir est très quand même particulier. Chez la femelle, elle a non seulement comme but instinctif de se reproduire et de perpétuer l'espèce, mais aussi de libérer ses juvéniles dans un environnement adéquat où la relation surface possible d'exploitation de la ressource et nombre d'individus est important. Par exemple, chez des éléphants de parc qui sont effectivement bien protégés, mettent bas un bébé tous les deux ans. Les mêmes éléphants dans des zones où elles sont beaucoup plus braconnées, on a souvent des jumeaux tous les ans. Donc il y a une relation entre la propre fécondité de la femelle
et son environnement, immédiat.
Actif aussi, bien sûr. Ouais. Et après, bien sûr, les aspects du comportement réfléchi, on peut parler de la nage et chez les singes, chez les grands singes, et puis chez les humains, vient bien sûr interférer avec ceci.
Ah, il y a des questions pour vous, évidemment. Gilles Boeuf, Youssef sur Twitter demande, est-ce que l'instinct ne signifie pas d'abord que nous possédons une mémoire pré-enregistrée dès la naissance, et quel est le rôle de l'ADN dans tout ça, puisqu'on parle de génétique?
Faudrait pas qu'on croit que l'ADN est responsable de tout. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que dans l'évolution, bien sûr, nous sommes des humains tous les deux, une girafe est une girafe, l'ADN il a un rôle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une profonde imbrication avec l'environnement qui agit là-dessus. On a parlé souvent ici, effectivement, de l'épigénétique, ici à la tête au carré. Alors, oui, on a une mémoire préenregistrée. Comment un saumon est capable, effectivement, de quitter sa rivière alors qu'il n'a jamais vu ce que c'était la mer, d'aller au Canada et de revenir? Quel est le rôle de l'ADN là-dessus? En fait, le support génique joue en partie. Mais tout l'environnement joue aussi énormément, ça c'est très clair.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion autour de l'instinct animal, et animal avec un grand A, les humains compris. I'll be right in the morning. One Man Night, Michael Kiwanuka dans cette tête au carré consacrée à l'instinct animal.
À la fin du siècle dernier, le physiologiste russe Pavlov a tenté de simplifier le problème en proposant une solution unique. Il explique tous les comportements des êtres vivants en disant qu'ils réagissent vis-à-vis du monde extérieur par des réflexes conditionnés qui se créent peu à peu dans leur système nerveux. Voici l'expérience par laquelle Pavlov démontre la création d'un réflexe conditionné. Si l'on présente à un chien une nourriture appétissante, il se met à saliver, ce qu'on peut observer en plaçant une canule sur les glandes salivaires, sans souffrance pour l'animal. Il s'agit là d'un réflexe naturel, un acte automatique, commandé par le bulbe. Le cerveau n'intervient pas, il est simplement informé. Si l'on fait entendre le bruit d'un métronome au chien en lui présentant en même temps de la nourriture, une association se fait dans son cerveau entre les deux choses. Et bientôt, le chien salivera au seul bruit du métronome sans qu'on lui montre de nourriture. Il s'est établi un réflexe conditionné, c'est-à-dire un nouveau circuit nerveux. Pavlov affirmait que tous les actes des êtres vivants sont des réflexes conditionnés, même ceux qui paraissent purement instinctifs.
Voilà cette archive INA donc, qui date de 1964. Gilles Boeuf, alors là, dans cet exemple précis du réflexe conditionné, il y a un apprentissage donc. Hein.
Il y a une relation à quelque chose. Alors, tout à l'heure, on parlait des chiens, mais l'humain aussi. Hein. Nous salivons devant, si on aime bien manger du poisson ou de la viande ou des fruits. Ce qu'il y a, c'est que là, on va conditionner l'animal en mettant en relation quelque chose qui au départ n'était pas évident.
C'est ça. Donc c'est pas l'instinct là.
Non. Alors d'abord on montre que par rapport au réflexe, l'arc réflexe est un peu différent de l'instinct. On peut les considérer un peu comme pas. C'est pas les mêmes zones de cerveau qui travaillent. Ouais. Par exemple, je pose ma main par mégarde sur une plaque chaude.
Ouais.
J'ai retiré ma main bien avant que j'y réfléchisse qu'il faut la retirer, sinon ça va mal se terminer. Est-ce que c'est instinctif? C'est un arc réflexe. C'est pas le même système. C'est pas le même endroit de cerveau qui travaille. Mais d'associer des choses comme ça, c'est fréquent. Par exemple, moi je me rappelle très bien quand je bossais mon bac, j'écoutais une musique, et c'est vrai que je lisais un livre particulier, et maintenant je peux pas ne pas associer, quand j'y pense, cette musique à ce livre ou ce livre à cette musique.
Ouais.
Donc on a associé quelque chose qu'on a gardé dans le cerveau pendant un certain temps. Donc là,
réflexe conditionné.
Oui, c'est ça, ça revient à quelque chose où, par exemple, je prends un exemple précis, comment on a découvert les bases moléculaires de la mémoire. On va revenir à la mémoire. J'ai des tout petits invertébrés marins, des ascidies. On s'était rendu compte effectivement qu'elles ont horreur effectivement de la lumière, et chaque fois que on leur donnait à manger, on allumait. Au bout d'un certain temps, ils ont fini par aimer la lumière. Et alors, on a regardé combien de temps elles se rappelaient qu'elles aimaient la lumière. 3 heures, 3 semaines ou 3 mois. Et on faisait un magnifique travail, qui a valu d'ailleurs un prix Nobel en 2001, sur ces questions particulières.
Oui.
Donc c'est vrai que on peut très très bien, par des questions de systèmes neuronaux différents, associer un événement à un autre, et qui deviennent primaires en fait dans la décision.
Hein. Alors, il y a des événements assez amusants, justement, qui transforment un petit peu la vie des animaux et des communautés animales. Il y a les macaques du Japon, par exemple. Hein. Justement, là, on est dans l'exemple d'un réflexe conditionné, parce qu'on n'est pas dans de l'instinct.
C'est-à-dire que ça s'était jamais produit. Et puis,
Qu'est-ce qui s'est passé alors exactement?
Une cinquantaine d'années, en fait, les macaques japonais étaient comme les autres, ils trouvaient de l'alimentation qu'ils consommaient. Et là, il y a une femelle qui s'est mise à laver ses aliments.
C'est la première fois qu'on l'observait chez un macaque.
Oui, absolument. C'était pas connu ailleurs.
Donc elle lave ses aliments.
C'est que comme la population est petite et bien localisée, pas dans des zones qui sont différentes, aujourd'hui, tous les macaques japonais lavent leurs aliments avant de consommer.
Oui. Donc ça, c'est du réflexe conditionné?
Et un apprentissage, puisqu'ils l'ont fait en regardant comment faisaient les autres, bien sûr. Hein. C'est comme pour nager, par exemple, je dis souvent. Bon, tous les animaux nagent, c'est rare je parle des mammifères qui ne nagent pas. Ceci étant, les grands sages ont du mal à nager parce qu'ils n'ont pas de morphologie qui se prête très bien à faire la nage du petit chien, justement. L'humain est intermédiaire. Mais c'est vrai qu'on va apprendre sur une base instinctive au départ. On nous jette dans l'eau, on essaie quand même de se débattre pour ne pas couler tout de suite. Mais si on ne sait pas nager, c'est quand même compliqué. Hein.
Ah, il y a beaucoup de questions des auditeurs, évidemment. Il y a Sacha qui nous dit ceci. Si l'instinct animal incite à protéger ses enfants, est-ce qu'il impose d'aimer ses parents ou sa famille? L'instinct maternel, justement.
Peut-être, mais dans ce cas-là...
Il y a l'empathie, quand même.
Oui, mais c'est un apprentissage. C'est-à-dire que là, effectivement, dès qu'on parle de respect, d'amour, c'est un petit peu différent. C'est pas le même amour que la maman porte, effectivement, à son bébé. Alors, c'est curieux. Souvent, on me demandait la différence, justement, entre les grands singes et puis les humains. On me disait, c'est vrai qu'une maman aime ses enfants toute sa vie. Une femelle de grand singe ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que dès le moment où elle va avoir sevrer un bébé et l'avoir libéré, elle doit penser uniquement au suivant, elle ne peut pas se rappeler du précédent. Une maman humaine, elle peut en avoir 10, elle va se rappeler toujours des 10. Donc là, il y a des différences intéressantes. Mais l'amour entre les êtres, oui, bien sûr, il y a une base instinctive, mais après, une énorme base culturelle, bien sûr.
Xavier sur Facebook nous dit ceci, vous parlez d'instinct animal, Gilles Boeuf, mais l'instinct n'existe-t-il pas également dans le règne végétal ou fongique?
Pourquoi pas? Moi, je n'exclus pas ça. Alors, il faut dire que beaucoup de gens très puristes ont dit il n'y a pas de neurologie des végétaux. Bon, j'y crois pas. Il y a un très bon physiologiste italien qui s'appelle Stefano Mancuso.
Ouais.
On a beaucoup parlé dans la presse française l'an dernier, qui parle vraiment de neurologie des plantes, en fait. Hein. Et quand vous voyez un arbre, par exemple, qui commence à être brouté démesurément, ce qui est fantastique, c'est que l'arbre ne répond pas tout de suite. Il est mangé, c'est normal pour un arbre d'être mangé en partie. Mais si on dépasse la dose de broutage, il déclenche immédiatement un réflexe instinctif qui va faire qu'il produit une substance qui rend l'arbre complètement immangeable. Ça, c'est fantastique.
Donc c'est une défense là aussi, c'est une question de survie.
Complètement. Mais surtout, il transmet aux arbres d'à côté la question. C'est-à-dire que tous les arbres deviennent immangeables sur 1 km². Et le pauvre mammifère, ça dure 24 heures, doit aller très loin pour retrouver un arbre à consommer. Moi, je ne suis absolument pas qu'il y ait de l'instinct effectivement chez les végétaux.
Ouais. C'est-à-dire que les arbres à côté de ce
deviennent
de ce
immangeables
premier,
pour 24 heures.
Voilà, même s'ils n'ont pas été broutés forcément par l'animal, ils arrivent à se défendre chimiquement leur zone. Catherine nous dit, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi certains carnivores comme les mustélidés égorgent frénétiquement tous les habitants du poulailler bien au-delà de ce qu'il aurait nécessaire?
Ça, c'est très juste. Alors, c'est connu aussi chez les requins. On appelle ça la frénésie, en fait. Hein. Un requin qui va commencer effectivement à consommer frénétiquement un banc de poisson ou un animal qui est ventré va effectivement tuer beaucoup d'animaux. Chez les mustélidés, c'est connu, effectivement. Une fouine d'un poulailler, c'est connu. Hein. Il y a des espèces d'instants de frénésie. Alors, est-ce que c'est instinctif? C'est pas réfléchi, en tout cas. L'animal le fait dans une espèce de... À un moment, il y a une espèce de folie meurtrière qui se produit, qui ne dure pas très longtemps.
Ouais. Et alors, dans le domaine des bactéries, par exemple, si on va vraiment dans les micro-organismes, est-ce qu'on a aussi, comme ça, des comportements instinctifs ou pas?
Alors, je ne sais pas si on peut les appeler comportements instinctifs. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des réactions bien précises dans des conditions changeantes bien précises. Les bactéries sont constamment... La question chez les bactéries, c'est qu'elles se divisent très vite, 4 fois par jour. Donc, ça se transmet, en fait, de génération en génération. Mais il y a des comportements, effectivement, des bactéries qui sont tout à fait en adéquation avec la meilleure réponse possible aux changements environnementaux.
Ouais. Et alors, ça se manifeste comment exactement?
Par exemple, je ne sais pas, c'est un manque, par exemple, d'eau, ça peut être une température trop élevée, une acidité qui change, ça peut être une salinité qui change, qui va faire que le comportement va changer. Mais souvent, effectivement... Bon, ça se fait sur une sélection tellement rapide, en fait, qu'on a du mal à la lire, en fait. Il y a eu un très beau papier récemment sur l'antibiorésistance. On a pris une énorme boîte de pétri, et on a soumis une colonie d'Escherichia coli, de bactéries très classiques, à différents antibiotiques. Et c'est très beau parce qu'on voit sur 1 ou 2% de la population apparaître l'antibiorésistance. Comme ceux-là sont résistants, il n'y a plus qu'eux qui sont dans la boîte, ainsi de suite. On finit par une énorme colonie qui est résistante à tout, en fait. Hein.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est de l'instinct? En tout cas, c'est un comportement des bactéries qui est lié à leur mode de reproduction, où sans arrêt, bien sûr, les animaux sélectionnés sont les mieux adaptés dans la situation que l'on vit.
Gilles Boeuf est l'invité de la Tête au Carré pour nous parler de l'instinct animal. Et on le retrouve juste après Lana Del Rey.
Fresh to death and sick as cancer. You were sort of punk rock. I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise I'll he was chasing.
Juste derrière la route qui longe la plage de Kaolack se trouve le camp Eight Elephants, 8 éléphants. C'est ici que ces géants placides attendent les touristes désireux de faire une petite excursion sur leur dos. Le matin du 26 décembre, le Maut Kritsada Salannam était parti avec des clients japonais. La sortie a débuté normalement.
Un client avait réservé à 9h. Nous étions en route lorsque l'éléphant meneur de la troupe s'est immobilisé et a refusé de poursuivre le chemin. Il s'est agité pendant un moment, puis il s'est mis à courir. À ce moment-là, il regardait à gauche, puis à droite. On a parcouru encore 20 mètres. J'ai regardé vers la mer parce que j'ai entendu le bruit sourd des vagues. J'ai vu que la mer montait, mais ça ne m'a pas choqué.
Voilà le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est, Gilbert. Voilà, avec un exemple dont on parle beaucoup, hein, façon dont les éléphants ont anticipé en fait l'arrivée de la vague.
C'est absolument fascinant, ce qui veut dire qu'ils sont sensibles à des choses physiques que nous, on est incapables de capter.
On a parlé des vibrations du sol, par exemple.
On met des capteurs partout, aujourd'hui on ausculte des volcans, on ausculte des territoires, et on a du mal, on n'arrive pas toujours. Hein. On mesure pas la bonne chose, probablement, ou on ne sait pas encore la faire. En tout cas, les pires, ces animaux, il n'y a pas que les éléphants, il y en a d'autres, hein, sont capables effectivement dans une situation de changement environnemental comme celui-là, d'éviter la catastrophe qui va se produire. Et ça, je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de respect pour le monde animal que ce qu'on a aujourd'hui, quand on voit leur capacité, effectivement. Hein.
Ouais. Alors, l'instinct de survie, justement, ça, il est important, on en a déjà parlé avec vous, Gilles Boeuf. Le comportement instinctif aussi, très souvent, c'est pour reconnaître l'ennemi aussi. Hein.
Le reconnaître et lui échapper.
Ouais.
Hein, ça, c'est la peur innée du prédateur aussi qu'avait l'humain, par exemple. Je pense que beaucoup de la haine animale qu'on a aujourd'hui est liée, effectivement, à une époque où c'était compliqué de vivre pour récupérer un morceau de viande sur un cadavre de zèbre mort depuis 2 semaines, tué par des lions et ensuite mangé par des hyènes et des vautours. Donc c'est vrai, mais ce qui est important de voir, c'est que l'instinct de survie, par exemple, c'est clair, si je vous mets un gros chien qui vous court derrière, Mathieu, vous allez courir plus vite que d'habitude.
A priori,
hein,
oui.
Donc ça, vous n'y pensez pas, ça déclenche, c'est des hormones qui déclenchent ceci, qu'on connaît bien, les systèmes. Alors, les hormones jouent un rôle fondamental dans cette question de l'instinct et de la relation avec la capacité d'échapper à une urgence pas encore connue. Ça revient aussi à définir apprentissage et intelligence, parce que est-ce que l'intelligence serait pas finalement la définition de quelqu'un qui est capable, face à un événement qu'il n'a encore jamais vécu, le plus vite possible de prendre la meilleure décision pour la survie. Hein. Et c'est vrai que c'est absolument totalement lié, ça, au monde animal et bien sûr au monde humain. Instinct de reproduction, instinct de survie, instinct de consommation alimentaire, c'est très clair. Alors après, bien sûr, la culture va changer tout ça. Mais quand ces événements se produisent, vous n'avez pas le temps de penser.
Alors justement, ce qui fait la différence entre l'instinct humain et l'instinct animal, c'est cette question de culture justement, qui fait que peut-être on va estomper nos instincts primaires chez les hommes.
Ce qu'on dit en fait, c'est vrai, c'est que l'humain est très particulier, et par rapport aux animaux, il est capable de... comment dirais-je, d'analyser des situations, s'il a le temps de faire, bien sûr. Hein. Et ça va modifier effectivement l'instinct initial. Ce qui est clair, c'est que l'instinct, au départ, est là pour mettre en place des conditions de vie, de survie, d'adaptation des meilleures possibles. Et après, bien sûr, l'apprentissage va nous permettre de faire des choses différentes. Par exemple, la technologie humaine va servir énormément, effectivement, à le protéger de tout ce qui se passe. On se chauffe pendant l'hiver, on se refroidit pendant l'été. Et d'ailleurs, c'est pas très bon, parce qu'on montre maintenant que ces gens ont caractéristiques émoussées. Quand on les regarde durant la guerre du Vietnam, face aux petits Viet Minh 40 kilos tout mouillés, ça se passe pas très bien. Hein,
oui,
exactement.
Alors, c'est ça.
L'instinct a été, la capacité d'adaptation a été émoussée. Donc c'est vrai, on est toujours sur un système chez l'humain particulier, pas toujours facile à analyser. Mmh. On l'a vu par exemple dans l'apprentissage de la marche ou de la nage par rapport aux grands singes. Ce qui est vrai, c'est qu'on a regardé comment apprenaient à marcher des bébés aveugles, par exemple, aveugles de naissance. Hein. Ils mettent un peu plus de temps, mais ils finissent par marcher quand même. Hein.
Ouais, mais les gestes instinctifs, ça aussi, c'est absolument passionnant, parce qu'on en est plein tout au long de la journée.
Les mimiques faciales ont été beaucoup étudiées chez les primates, chez les grands singes et puis chez les humains. Il y avait un joli travail d'ailleurs qui a été fait par Irénéus Hebb Ebersfeld, qui est l'homme de l'éthologie humaine, en Allemagne, à Stuttgart, où il dit en fait que filmer à leur insu, tous les humains du monde ont les mêmes mimiques faciales. Hein. Ouais. On reconnaît le type qui est triste, qui est fatigué.
Quel que soit le pays et la culture, complètement. Pour le coup. Hein.
Ouais. Donc il y a une base. Alors après, par contre, rire, par exemple, on nous dit le rire est le propre de l'homme. C'est pas exactement vrai. Ce qui est clair, c'est que si je vous dis, voilà, riez maintenant, vous n'avez pas le même rire que si vous avez vraiment au fond de vous-même une envie frénétique de rire.
Quels sont les animaux qui rient
le chimpanzé. Oui, les chimpanzés, par exemple. Ouais.
Alors, Alban pose une question sur franceinter.fr. Et l'instinct du spermatozoïde, est-ce que vous avez des éléments de réponse concernant ce drôle d'animal qui comme les saumons, arrive à trouver quand même la bonne direction?
C'est comme pour nos bactéries, je ne crois pas qu'on puisse parler d'instinct. Ce qu'il y a, c'est effectivement que le spermatozoïde est programmé. Alors, ça veut dire quoi? Quand on dit ça, c'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais. Ce qui est clair, c'est que les milliards de spermatozoïdes qui sont produits sur une éjaculation vont faire que tous ont une envie frénétique de trouver le micropile, le petit trou, dans l'énorme ovocyte et d'y pénétrer. Donc ça, c'est effectivement... Mais ça, ce sont des aspects qui sont totalement chimiques, en fait, de communication, qui vont faire qu'il faut absolument que ça se produise comme ça.
Une histoire, justement, de migration, celle des cigognes, avec l'Alsace, est extraite de ce documentaire diffusé en 1977 sur France Inter.
Les cigognes sont en voie de disparition. En Alsace, leur terre d'élection, il y avait 300 couples il y a 20 ans, il n'y en a plus que 10 à l'heure actuelle. Et une question, que serait l'Alsace sans les cigognes? C'est ce que s'est dit il y a 2 ans Jacques Renaud, un ornithologue de la région, qui a décidé de construire lui-même un centre d'accueil pour ces oiseaux en voie de disparition. Sa méthode est simple, il expliquait par téléphone à Jérôme Bonaldi.
La seule solution existante à l'heure actuelle, c'est d'enlever l'instinct migratoire des cigognes pour les empêcher de partir en Afrique hiverner. Pour la bonne raison que c'est dans leur voie de migration et en Afrique que les cigognes disparaissent. Donc on supprime la cause de disparition en les empêchant de partir.
Pourquoi disparaissent-elles?
L'électrocution, il y a la chasse, il y a les pesticides. Et si on maintient une cigogne pendant 2 ans dans un endroit quelconque, ensuite elle perd son instinct migratoire et même si elle peut voler librement, elle ne part plus en migration. Et c'est ce que nous faisons. Pour les enfants, par exemple, les enfants de ces cigognes qui donc, quand on a enlevé l'instinct migratoire, les enfants, bien sûr, partent en migration, parce que c'est pas une chose qui peut être transmissible. Hein. On a maintenant à peu près 200 cigognes à qui on a enlevé l'instinct migratoire, et à partir de l'année prochaine, quand toutes ces 200 cigognes seront sexuellement adultes, parce qu'elles sont adultes qu'à 3 ans, on aura entre 50 et 100 couples de cigognes qui reproduiront, et qui font entre 200 et 300 jeunes par an.
Alors, Gilles Boeuf, on peut enlever artificiellement donc l'instinct d'un animal, hein, comme on le fait par exemple avec ces cigognes.
Donc on peut intervenir, ce qu'oublie quand même ce monsieur, c'est qu'il faut quand même bien être sûr que ces cigognes en question vont trouver à manger toute l'année là où elles sont, si elles sont populeuses, si elles sont nombreuses. Il y a des raisons à la migration en fait. Hein. Et d'ailleurs, maintenant, les cigognes, elles sont revenues en Alsace, c'est vraiment sans.
Mais là, ils leur ont donné à manger pour l'expérience, évidemment.
Marche à quelques individus. Ouais. Mais alors, justement, cet instinct de la migration, sur les saumons, ça a été bien pratiqué sur le sea ranching. Le ranching de saumons aux États-Unis consiste à faire des bébés saumons en élevage, les libérer en mer et les laisser revenir. Ils s'étaient rendu compte que si on voulait pas les laisser aller trop loin, il suffisait au moment de la migration, quand elles arrivaient en mer, de les bloquer pendant quelques temps dans des structures pour qu'ils perdent leur instinct migratoire lointain. Et ils faisaient leur migration uniquement dans la zone côtière.
Donc ça marche vraiment,
beaucoup
ça
plus. Ça a été fait au Japon aussi, en Russie aussi. Donc on avait effectivement des captures de saumon, parce que plus on va loin, plus on a des risques de disparaître en mer.
Donc ça c'est juste le fait de les maintenir dans un même endroit
sur
qui
les saumons,
perdre l'instinct.
C'est ce qui s'était produit. Ils perdent pas leur instinct de migration, mais on le limite.
Lointain.
Voilà, exactement. Ils partaient beaucoup moins loin. Alors après, c'est vrai que sur les oiseaux, c'est la question intéressante, c'est effectivement, on comprend les oiseaux du Nord qui vont migrer pendant l'hiver dans des zones beaucoup plus chaudes. La question, mais c'est pourquoi ils reviennent dans le Nord? Là, il fait pas beau. Parce que justement, durant l'été dans le Nord, la toundra est très riche et en plus, il fait jour toute l'année. Donc, ils trouvent beaucoup plus d'insectes pour s'alimenter que dans une zone, en fait, du Sud. Tant plus qu'au Sud, s'ils restaient en permanence au Sud, il y aurait vite une surpopulation de toutes les espèces.
Ouais. Benoît demande comment les petits des cigognes sédentaires en Alsace, qui ont oublié comment migrer, ont su comment repartir.
Ah oui, c'est la question qu'on pose toujours avec les saumons aussi. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un instinct propre. Alors, on sait que ceci est lié au champ géomagnétique, est lié également aux constellations. Les saumons se guident sur les constellations, ça a été travaillé pas mal. Par exemple, on a fait des travaux intéressants sur des saumons introduits de l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud en Nouvelle-Zélande.
Et alors?
Au début, ils se paumaient tout le temps. Et au bout de quelques générations, ils ont trouvé des zones d'engraissement.
Ouais. Et est-ce qu'il y a des saumons qui choisissent de faire des cols buissonnières et de ne pas suivre justement et de remonter aux origines?
Ça, c'est intéressant, parce que ça a été pas mal travaillé aussi. En fait, l'énorme majorité part va sur une zone précise en mer par n'importe laquelle et revient à sa zone
toujours la même
de départ. Les Bretons viennent en Bretagne, les Normands en Normandie, ceux de l'Allier sur l'Allier, dans l'Allier. Mais par contre, on s'est toujours rendu compte qu'il y avait quelques femelles qui avaient un sentiment aventureux ou poétique qui changeait. On appelle ça le coefficient de divagation. C'est très faible, hein, mais ça permet dans la population à quelques individus aventureux comme ça de peut-être trouver des zones intéressantes pour l'espèce, surtout quand le milieu s'appauvrit ou change ou pollue ou contaminé.
Ouais. Très joli, coefficient de divagation, Gilles Boeuf, on retient ça. Merci beaucoup, merci infiniment d'être venu nous en parler. Il faut écrire un livre là-dessus, c'est absolument passionnant.
Avec plaisir.
Avec tous les exemples à votre disposition, l'instinct animal. Et merci aux auditeurs pour toutes les questions arrivées sur le site de La Tête au Carré. Merci à vous Gilles Boeuf, à bientôt.
Merci.
Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles, quel est le thème aujourd'hui dans un instant?
Une histoire étrange, deux avions qui se crachent au même endroit sur le Mont Blanc à 16 ans d'intervalle, de la même compagnie, on retrouve un trésor. Voilà, nous vous raconterons cette histoire. C'est pas un roman, cette histoire.
Ouais,
même si Henri Troyer en a sorti un roman, vous savez, la neige en deuil. La neige en deuil, pour Henri Troyer, en tout cas. Mais c'est un peu les Bermudes montagnardes. Et notre invitée, ce sera Françoise Rey, ancienne journaliste, désormais écrivaine, qui enquête depuis 25 ans sur ce dossier.
J'espère qu'elle a des éléments de réponse. Merci. À tout à l'heure.